Bon, oui, pendant que vous réfléchissez aux questions que vous allez pouvoir poser, rappelez un peu l'histoire du comité laïque du Nord 1905-2005. Il s'agissait à l'époque de célébrer le centième anniversaire de la loi de 1905. Et donc un certain nombre d'associations se sont réunies pour commémorer, célébrer ce centenaire. Donc il y avait la Ligue de l'enseignement, hein, donc du Nord, la FLASEN, la Fédération du Nord de la Libre-Pensée, des syndicats d'enseignants, et il en reste ici à Jacques Descamps, qui est présent donc le SGEN CFDT. Il y en avait d'autres qui nous ont quittés. Les DDEN, hein, et donc il reste notamment les DDEN de Villeneuve-d'Ascq, le ZEN, il y a René Dutrier qui est ici présent. Il y a maintenant le CNAFAL, enfin donc le Conseil national des associations familiales laïques qui en fait partie. Et puis il y avait les Amis du monde diplomatique aussi, Jean-Pierre Derken qui est là, qui représente les Amis du monde diplomatique. Il y a évidemment la Fédération unie des auberges de jeunesse avec Pierre Debosse qui était là-bas au fond. Et puis je ne sais pas, est-ce que vous en oubliez d'autres Il y avait des partis politiques au départ, mais après on n'a plus vu, donc on reste à une petite dizaine d'associations à essayer de faire vivre ce comité laïque 1905-2005 en faisant deux conférences dans l'année. Il y en a une dans le cadre de la fête de la science. La première qu'on a faite était, mais il est parti, c'était Bernard Maître qui était venu nous parler du cosmos, des origines de l'univers, avec une exposition. Et donc c'est depuis, je crois, 2006, on organise conférences avec une exposition ici, et on essaye de faire une ou deux autres conférences. On en a fait une au mois de juin. Alors là, c'était Jacques qui était à l'origine, c'était autour de l'enseignement du fait religieux dans les différents pays, en comparant modèles belges, français et allemand, mais allemand berlinois, le Land de Berlin unique. Voilà, donc si vous avez des questions, on pourra y répondre après ou pendant le pot. Donc maintenant, ça nous a permis de réfléchir, si ça ne vous a pas perturbé, de réfléchir aux questions que vous allez poser. Et donc je repasse la parole à Patrick.
Alors, qui souhaite intervenir ou bien poser une question?
Oui. J'ai monté dans les comités d'éthique, il y a une trentaine de personnes.
41.
Combien?
41.
Ouais, ils ne sont pas tous comme le plan de vrai.
Bon, parce que ils ne sont pas tous, mais moi quand
j'ai resté sur l'impression, enfin oui. Moi je suis resté sur l'impression que vraiment c'est toute une bande de tarés.
C'est pas toute une bande de tarés, mais il y a quand même une très forte connotation. Moi quand j'avais travaillé sur l'euthanasie, j'avoue quand j'ai lu la composition du comité, j'avais les cheveux qui se dressaient sur la tête. Parce que c'était effectivement, il y avait ces personnalités de la société civile, bien entendu, mais qui on sentait quand même qu'il y avait une collusion quoi entre la vision religieuse des choses et ces représentants des comités d'éthique. Alors pour vous expliquer franchement, on n'a jamais vu un libre penseur dans les comités d'éthique par exemple, ou un membre du comité d'action laïque par exemple, enfin je pense pas. Alors de temps en temps ils prennent quand même, bon il y a des représentants des obédiences maçonniques peut-être, mais c'est vrai que globalement quand même les associations, les organisations laïques sont pas tellement bien représentées dans ces comités d'éthique. Enfin, je sais pas si tu peux en dire quelque chose. Je vais essayer de retrouver ce que disait Jean-Sébastien Pierre à propos de ça, parce qu'il avait une phrase qui était assez jolie. Mais en tout cas, je dirais que c'est quand même assez représentatif de cette famille spirituelle, de ce courant spirituel et de ce courant conservateur tout de même. Hein, je pense que, ou en tout cas ceux qui n'ont pas, qui sont un petit peu hors catégorie, n'ont pas un grand pouvoir décisionnaire dans ces comités d'éthique. Pour vous donner un exemple, par exemple sur l'euthanasie, alors qu'il y a des gens de la DMD, il y a l'organisation, donc l'association pour le droit à mourir dans la dignité, ils font très rarement partie du comité d'éthique. Hein, ils ne sont pas vraiment interpellés dans ces comités, donc Voilà, c'est quand même eux qui ont le plus réfléchi au problème.
Il y a quand même eu Jean-Pierre Changeux qui était président.
Oui, il y en a eu, c'est vrai.
Donc il y a quand même des scientifiques.
Oui, voilà.
Et ces comités d'éthique ont quand même un rôle consultatif. Ils sont là pour avis. C'est à la représentation nationale à donner, à faire la loi.
Voilà.
Mais et donc, c'est quand même différent, quoi. Oui.
Quelles sont parmi les personnes qui sont dans le comité d'éthique, quelles disciplines sont représentées ? Dans quel pourcentage ? C'est possible.
Alors là, j'ai un.
Est-ce que ce sont des biologistes massivement, des médecins massivement ? Est-ce qu'il y a des philosophes ? Est-ce qu'il y a
des
sociologues ? Est-ce qu'il y a des sciences dures, mais aussi des sciences dites molles ?
Je crois qu'il y a un peu de tout. Alors, je suis embêtée pour vous répondre parce que j'avais prévu d'apporter un papier sur lequel tout était noté. J'avais bien préparé mon petit truc avant de partir et j'ai oublié mon papier à la maison. Donc, de mémoire, je suis incapable de vous refaire le pédigré de chaque membre du comité d'éthique. C'est vrai que là, c'est une erreur de ma part.
D'ailleurs, ma question se pose, c'est l'énorme problème de la transdisciplinarité. Dans nos sociétés, et surtout, c'est pas seulement sur les problèmes de bioéthique, c'est dans énormément de problèmes, il y a le manque de transdisciplinarité. Bon, il y a une exposition sur les OGM, ça mériterait effectivement qu'il y ait des savants, des chercheurs, on dirait, de différentes disciplines qui puissent travailler ensemble. Et,
absolument.
Et il faudrait sans doute aussi que dans nos sociétés, le peuple, que nous sommes, puisse à un moment donné, peut-être,
son avis.
Avoir aussi, je dirais, son mot à dire ou son mot à entendre, à comprendre, pour qu'il puisse justement aussi participer au pouvoir de décision.
Justement, quel bilan, je dirais, des forums, des comment on appelle, états généraux qui sont tenus, qui étaient, d'après dans l'objectif officiel, qui était justement destiné à diffuser la réflexion et le débat parmi les citoyens lambda qui étaient invités, tirés au sort et formés éventuellement. Donc, il y a enfin, j'ai suivi un peu
de
Marseillais
qui ont participé,
des opposants qui sont venus, il y en a qui sont tenus. C'est un truc qui est passé complètement inaperçu. On a parlé du débat sur l'identité nationale qui était une délégation profonde. Là, vu sur le papier, mais j'y suis pas allé, hein, ça me semblait plus sérieux au point de vue organisation. C'est-à-dire que c'était pas de l'esbroufe, mais c'était tellement discret que personne n'en a parlé. Or, il y a eu une dizaine d'états généraux, c'est ça, états généraux qui ont abouti au rapport par un député. Il y a un député qui a fait un rapport, c'est un député socialiste qui a présenté ça au mois de janvier l'an dernier. Donc il devait justement déboucher sur la révision. Mais c'est passé complètement.
C'est passé inaperçu, visiblement, parce que moi j'ai rien, on n'en a pas parlé. Dominique Gousseau
en
parle.
On en a parlé là
Dominique Gousseau, oui, Dominique Gousseau
parce
a dit.
Moi, je l'ai entendu, ouais. Hein, je ne me rappelle plus où c'est dans le livre. Mais
il y a eu des forums dans le Nord, mais qui se sont mal terminés, enfin, qui n'ont pas pu avoir lieu. Parce que des vers délicats, comme d'habitude, sont venus interdire l'expression dans ce forum. Quoi. Donc, parce qu'on y parlait d'OGM, donc il ne fallait pas en parler. Quoi. C'est quelque chose d'abominable et de diabolique. Et donc, résultat, les forums n'ont pas pu se tenir dans le Nord, d'après la presse, en raison d'une démarche de même délicatesse que lorsqu'ils vont faucher les champs. Quoi. Oui.
Alors, je ne sais pas si la conférencière peut m'éclairer, ou si quelqu'un dans l'Assemblée peut m'éclairer, parce que moi je suis toujours séduit par l'Église quand elle parle souvent de l'âme, puisque j'ai pu comprendre que même compris au niveau de l'embryon, il devient, ou en tout cas... il est habité par l'âme dès les premiers jours et c'est à partir de là donc qu'il devient donc une personne humaine ou une espèce humaine et donc il ne faut donc pas donc la toucher. Alors si on remonte même disons à la construction même de l'identité ou de l'idéologie donc de l'Église catholique en l'occurrence, c'est que la Vierge Marie donc a été conçue par le Saint-Esprit, donc déjà dans ça, hein, donc cette affaire donc d'âme, donc dès le départ. Puis quand Jésus est décédé, a fait mort à 33 ans, donc un vendredi, donc le dimanche, bon, donc son âme donc est partie, hein, donc rejoindre donc d'où elle venait. Et dans l'histoire, je prends par exemple quelque chose que j'ai qui m'a particulièrement intéressé à un moment donné, c'est dans la traite des Noirs. Au moment donc, où il y a eu cette interrogation au niveau donc, des philosophes donc, du siècle de la Lumière, hein, donc les Montesquieu, les libéraux, etc. Donc on disait que c'était Montesquieu d'ailleurs qui écrivait ça, donc rapportant un débat qui avait lieu donc, entre eux, où pour justifier la traite négrière, hein, on disait que le bon Dieu qui est un être si magnanime ne peut pas mettre une âme dans un corps noir. Hein, donc, bon. Donc il y a cette permanence donc, de l'âme, donc, qui, à partir donc, de laquelle on identifie en tout cas donc, une personne humaine, donc dès le départ donc, de la vie. Alors, quelqu'un peut tenir.
Moi je voulais justement rebondir sur ça, sinon j'allais venir sur le même sujet. Il y a un moment dans l'expression que vous avez pu employer où vous avez reformulé la question. Quelque part en utilisant la terminologie de l'Église, en disant à partir de quel moment l'embryon est-il doté d'une âme humaine. Je dis quelque part, dans l'utilisation de la terminologie, vous intégrez déjà le piège idéologique de l'Église, c'est-à-dire que déjà, il n'est pas prouvé que l'âme, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi elle existe, et c'est pas parce qu'on a une capacité de réflexion et de discussion rationnelle que l'âme est quelque chose qui existe. Et donc c'est fortement connoté idéologiquement. Donc je pense que déjà pour, entre guillemets, lutter politiquement ou philosophiquement contre cette idéologie malsaine, il s'agit d'être rigoureux dans la terminologie. Mais je vous fais pas le reproche de
non, on est d'accord, mais c'était
des... Vous avez voilà. Reformulé dans cette conception idéologique.
Donc à contrario, hein, donc par rapport donc à la science, cette fois-ci, hein, donc, qui est quand même plus rationnelle.
Hein. Oui, c'est intéressant.
Il y a un monsieur qui dit, tu veux poser une question.
Donc qui est quand même plus rationnel, c'est que on peut édicter une théorie, hein, donc, puis ensuite on se rend compte que si au niveau donc, de l'observation, donc des actes donc, de la nature, si ça ne colle pas, ça ne cadre pas, donc la science donc, se reconstruit en quelque sorte. Or, depuis le début de l'humanité, donc, l'Église est toujours restée donc, dans cette. Dans cette logique-là. Donc la différenciation, donc, à mon avis, donc, se trouve là. C'est-à-dire qu'on reste vraiment donc, dans une optique donc, dès le départ, et on se rend compte au fur et à mesure donc, de l'évolution de l'espèce humaine, quand même, ça ne tient plus, et pourtant, on est tout le temps.
Bon, la réalité, heureusement, est plus complexe qu'on ne le croit. Moi, je crois que dans des situations comme celle-ci, on risque de simplifier un peu les choses. Hein. L'Église, franchement, je ne connais pas. Je connais les hiérarchies catholiques et d'autres hiérarchies. D'abord, déjà, le champ chrétien, c'est un champ très différencié où les Églises protestantes et l'Église catholique, ce n'est pas du tout du même ordre. Même et comment sur les questions éthiques. Là, je crois être assez bien placé pour le dire parce que je collabore à l'hebdomadaire des églises vaudoises, méthodistes et baptistes italiennes. Donc, je sais de quoi j'ai cause. Il y a un clivage fondamental entre les positions du protestantisme historique italien. Je souligne historique, il faut être précis. Parce qu'il y a un autre protestantisme qui vient des USA, évangélique, qui s'exprime d'une façon très confuse, avec des formes mouvementistes, sans une théologie solide, voire sans la moindre théologie. Or, je parle du protestantisme historique, ça il faut bien le préciser. qui s'expriment aujourd'hui dans certaines églises et pas d'autres. Mais même si on en reste au champ catholique, parce que l'Église catholique n'est quand même pas n'est quand même pas quelque chose de monolithique. Moi, je dirais plutôt les hiérarchies catholiques. Parce que si on va voir de près ce qui se passe dans l'Église, à la base de l'Église, et en dehors de hiérarchie, on trouve des positionnements complètement nuancés, voire différents, voire en opposition au positionnement de l'hiérarchie. Donc là, il faut faire attention parce qu'on risque de simplifier et de faire tort aussi à des gens qui, avec difficulté, certainement, essayent de... tout en se situant. Par exemple, ce n'est pas mon cas, je me situe dans le camp protestant, mais tout en se situant dans le camp catholique, par exemple, ne partage pas la vie de hiérarchie catholique. Donc, il faut faire attention là-dessus.
C'est une hiérarchie dominante.
Non, dominante, ça veut rien dire. C'est pas l'Église. C'est la hiérarchie. Ça ne représente que sur un plan purement formel, institutionnel, l'Église. Ce n'est pas l'Église dans le corps de l'Église. C'est comme alors qu'on parlait du Parti communiste et on faisait une certaine confusion entre le comité central et le corps du parti et les militants. C'était pas du même ordre. Là aussi, on a fait des sacrées confusions. C'est la même chose.
Oui, monsieur.
Oui, je vais répondre tout de suite. Alors, ce que vous dites est tout à fait juste. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, quand je parle de l'Église en général, je parle de la hiérarchie. Hein. On est bien d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai repris ce que disait le Vatican par rapport à Robert Edwards. Il est bien d'accord qu'à la libre-pensée, entre autres, et là, c'est la position libre-penseuse, on ne parle pas des croyants, on parle toujours de la hiérarchie. Il est bien évident, moi, c'est la hiérarchie qui est dominante, on est bien d'accord. Sur les protestants, on est tout à fait d'accord. Moi, j'ai beaucoup travaillé. C'est vrai que c'est la première fois que je fais une conférence sur la bioéthique, donc c'est bon, vous avez peut-être pu vous en rendre compte, c'était un peu chaotique, j'étais pas très à l'aise, mais j'ai beaucoup travaillé sur la mort et sur l'euthanasie. C'est pas un hasard si c'est dans des pays protestants à dominante protestante, hein, les Pays-Bas entre autres, qu'on a légalisé l'euthanasie. C'est pas du tout innocent. Et c'est pas un hasard non plus que les lois sur l'IVG ont été plus précoces, beaucoup plus précoces qu'en France, hein, qui malgré le fait qu'elles sont un pays laïque, restent quand même la fille aînée de l'Église. On est bien d'accord, hein, mais de la hiérarchie de l'Église, pas de l'Église en général. Je dis, moi quand je parle de tout ça, soyons bien réalistes. Combien de femmes croyantes catholiques se font avorter parce qu'elles ont compris qu'elles ne voulaient pas d'enfants? Combien de croyants revendiquent un droit à une aide active à mourir quand ils souffrent trop? Ça n'a rien à voir avec l'idéologie religieuse développée par la hiérarchie religieuse. Hein, donc je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, évidemment. Mieux, hein, mais vous avez raison de leur préciser.
Des fois, on part dans des trucs assez...
Avec ses habitudes et ses mots.
Ce n'était pas dans votre discours.
Tout à fait.
Ce n'était pas dans votre discours.
Oui. Non, mais tout à fait.
Il y a toujours le risque.
Oui.
Ça
existait sûr, la confusion.
À l'époque où il y avait le Parti communiste en
Italie. Bien sûr.
Moi, je suis en Italie, donc le Parti communiste en Italie, ça n'existe plus.
Oui,
donc, mais alors que ça existait, il y avait un peu.
Ce n'est pas le croyant de lambda qui est venu par exemple en Afrique porter la croix. Non,
tout à fait. Hein. Et puis je vais vous faire une petite remarque sociale aujourd'hui. C'est pas parce que Monsieur Sarkozy veut modifier les retraites que 60 millions de Français sont derrière et veulent changer les lois sur les retraites par répartition. On est bien d'accord. Hein. Donc la hiérarchie, le gouvernement français ne représente pas l'ensemble de la population aujourd'hui. Donc bon, voilà, hein, on est entièrement d'accord et je suis entièrement d'accord avec vous.
Ouais, une question, allez-y.
Oui, moi je voulais faire une petite remarque quand même sur le problème de positionner l'embryon sur la notion de propos. Moi ça me gêne un peu quelque part. Parce que je lui préférais la notion d'individu. Parce que l'individu, on sent déjà le fait que pour qu'un individu existe, il faut justement qu'il soit autonome. Le projet, moi, ça me gêne parce que Je pense que vous avez un petit peu glissé rapidement sur le problème de l'eugénisme, hein, vous l'avez. Mais il y a un piège derrière ça. C'est vrai que si on se base uniquement sur le projet, eh bien on peut avoir avec les technologies qui évoluent dans la procréation, le risque de voir des gens qui ont un projet pour un garçon, mais pas pour une fille.
C'est déjà le cas.
Oui, bien sûr. Donc c'est piège, c'est piège de ce projet.
Discriminatif, bien sûr.
Et au lieu d'avoir un enfant qui soit blond ou bien formé, enfin, on voit le temps qu'on peut avoir avec le génisme.
Alors là, je vous réponds tout de suite. Ça existe, le génisme discriminatif. Ça n'existe pas pour les raisons que vous dites. Ça existe pour une raison bien simple, c'est que dans certains pays, on se fait avorter quand on est enceinte d'une fille. C'est le cas en Chine et en Inde. Et je vais vous dire de mémoire un poème qui a été écrit par Taslima Nasrin. Taslima Nasrin a écrit un poème qui s'appelle le poème de Tabitha. Tabitha est une femme qui vient d'accoucher. Elle a accouché d'une fille. Et sa fille vit 50 minutes. Elle l'étrangle au bout de 50 minutes. Et tout le monde crie, lève les bras au ciel, en disant « Tabitha est folle, mais Tabitha rit », dit Taslima Nasrin. Tabitha rit tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de faire souffrir sa fille 50 ans, elle la laisse simplement souffrir 50 minutes. Et là, c'est l'eugénisme discriminatif. Et je crois que là, ça résume tout. Par contre, sur cette vision, bien sûr, le risque du diagnostic préimplantatoire, le risque, tout ça, ça pourrait être cet eugénisme, qui n'est pas un eugénisme négatif, mais qui pourrait être un eugénisme positif. On pourrait en parler, je vous dis, l'eugénisme, c'est un sujet passionnant, hein, parce qu'effectivement, quand on connaît l'origine de l'eugénisme, comment c'est né simplement de théories mathématiques. C'est Francis Galton, hein, qui était un proche parent de Darwin, qui a mis au point ces théories eugénistes. Et à partir de ces théories eugénistes, il y a deux courants qui sont nés. Il y a un courant, effectivement, très conservateur, qui a abouti à l'extermination des Juifs dans les camps de concentration, qui est passé par des stérilisations forcées de populations susceptibles d'être des races inférieures, hein, là aussi, aux États-Unis. En Suède, il n'y a pas encore si longtemps, on le sait, hein, il n'y a pas si longtemps qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu des stérilisations forcées. Les contraceptions forcées chez les handicapés mentaux, même en France, hein, ça existe, ça a existé. Donc effectivement, ça aboutit à ça. Et puis le deuxième courant de l'eugénisme, et qui est un courant extrêmement positif, qui a abouti pour nous les femmes aux grandes lois libératrices des femmes, c'est-à-dire le droit à l'avortement et à la contraception. Donc effectivement, l'eugénisme n'est pas forcément... C'est de l'eugénisme, hein, on est bien d'accord. Je peux vous en parler, c'est un sujet que j'ai bien travaillé et que j'adore. Donc si je vous dis, ça mériterait une conférence à lui tout seul, l'eugénisme. Hein. Mais effectivement, oui, c'est un risque, bien sûr. Bien sûr, ça pourra arriver. Mais ça touchera combien de pourcentage de la population? Ça touchera quoi? Ça va toucher quelques fécondations in vitro?
On peut le savoir.
Comment on peut le savoir, oui. Mais en même temps, est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi, c'est ce que je vous disais sur les scientifiques, les scientifiques aussi, les gens qui font ce genre de travail ont aussi une morale. Si la science est amorale, les scientifiques ont une morale, et une morale propre, et à mon sens, je pense que dans certains domaines, même s'il peut y avoir des dérives, mais des dérives malheureusement, il y en a partout, et on voit bien en matière politique les dérives qu'il peut y avoir, vers une vision très totalitaire, parce que cette vision quand même du biopouvoir qui devient quelque chose d'extrêmement totalitaire, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est quand même, je suis pas la seule à le penser, mais il est bien évident que c'est quand même une dérive progressive d'une vision sociale de l'humanité à une vision extrêmement biologique. Donc méfions-nous quand même de cette dérive progressive.
Juste une chose qui est un complément quand même ce qu'on dit. C'est un petit peu l'angéliste de penser que puisque les scientifiques ne sont pas, comme vous l'avez dit, ils sont amoraux. Mais le problème, mais c'est que
ils sont moraux,
pour des raisons,
la science. La science est amoraux.
La science, oui. La science maintenant échappe. L'utilisation de la science échappe aux scientifiques. Et c'est notamment le cas dans le problème de la brevetabilité du vivant, par exemple. Et donc là, on peut pas dire que, on peut dire que ce qui est aujourd'hui est structurant dans le côté mercantiliste de la biotechnologie, c'est le fait que c'est aux mains des laboratoires pharmaceutiques.
Oui, enfin, cela dit, je vais quand même répondre en deux minutes. Oui, il y a une série de questions. Je vais quand même vous répondre avant de donner la parole à Jocelyne.
sur la brevative, la possibilité de faire des brevets sur le vivant. Eh ben, c'est pas quand même aussi évident que ça. Moi, je m'intéresse de très près à une médecine qui s'appelle la médecine anti-âge, et je peux vous dire une chose, c'est que aujourd'hui, sur les hormones biocompatibles, il n'y a pas de possibilité de brevet de la part des laboratoires pharmaceutiques. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de mercantilisme. Hein, c'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne développe pas ce type de médecine, parce qu'elle ne coûte pas assez cher, parce que les labos ne peuvent pas faire de bénéfice sur quelque chose qui est de biocompatible, qui est vivant. Hein, une hormone biocompatible ne peut pas être brevetée, il ne peut pas y avoir de monopole dans le laboratoire sur une hormone biocompatible. Je dis bien biocompatible, hein, je ne dis pas équivalente, je dis bien biocompatible.
Donc il y avait Hélène qui avait posé une question. Tu voulais poser une question, Hélène?
Jocelyne aussi.
C'était Jocelyne.
Moi, ce que j'aimerais évoquer, c'est le fait que si on peut s'insurger devant le mercantilisme, il serait tout aussi bon à ce moment-là qu'en France, on s'insurge réellement contre le mercantilisme qui nous amène tranquillement à laisser des quantités d'enfants atteints de maladies orphelines sans aucune possibilité de recherche pour tous les travaux qui permettraient de les sauver. On les a laissés naître sans aucun problème, et on les laisse mourir sans se préoccuper des possibilités de recherche qu'on pourrait développer.
Exactement.
Pour essayer de les soigner. Donc si on évoque la notion de mercantilisme, je dois dire qu'à côté de ça, il y a tellement de situations, ça s'en étude, hein, mais il y en a tellement d'autres situations où le mercantilisme amène des choses dramatiques dans notre société que franchement, pour moi, celle-là, elle est ridicule.
Un autre point, c'était le monsieur avait abordé, là, c'était le problème de l'esclavage des Noirs. Ça me rappelle que Louis Salin Molins, dans un ouvrage qui s'intitule Le Code Noir ou Le Malheur de Canaan, rappelle que la Bible justifie l'esclavage des Noirs parce que Cham s'était moqué de papa Noé qui était ivre et peu visible. Donc il y a une justification de la Bible. Mais par contre, par rapport au reste de la discussion, c'est quand même que lorsque tu dis il y a une loi sur l'IVG, une loi sur l'euthanasie, dans d'autres pays, il y en a une qui permet le don du sang, le don d'organes aujourd'hui. Ça veut dire que c'est à la représentation nationale à faire des lois qui permettent d'utiliser les progrès de la science, quoi. Donc la loi est nécessaire. Donc faut-il maintenant, pour éclairer la représentation nationale, est-il nécessaire qu'il y ait des comités qui y réfléchissent? Je pense que c'est nécessaire, que la représentation nationale a besoin de comités, on peut les appeler comités d'éthique, mais ce qu'il faudrait surtout se soucier, c'est que les laïcs fassent quelque chose qui soit le rival de l'académie pontificale, quoi, pour montrer qu'il y a d'autres conceptions
Simplement possible. D'autres modes de pensée, voilà, d'autres conceptions. Moi, je me suis posé la question dans le train, figurez-vous, comme quoi les longs trajets en train peuvent être utiles à la réflexion, par rapport justement à cette recherche sur l'embryon. Ce que tu viens de dire est éclairant. Pourquoi on a tant de difficultés justement à parler de l'embryon, hein, cette espèce de chape de plomb, chaque fois qu'on parle d'embryon, cette espèce de fantasme de l'embryon quelque part, hein, l'embryon qui peut devenir d'ailleurs vous avez déjà remarqué que chaque fois que nos opposants et en tout cas les opposants à l'IVG parlent des IVG qui ont été fabriqués, ils vous disent toujours qu'on a peut-être tué Einstein, hein, vous avez remarqué, on n'a jamais tué Landru, c'est toujours Einstein qu'on a assassiné, bien évidemment, hein.
Ou Mozart.
Moi, je me posais quand même la question. Alors, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. J'ai juste eu le temps, dans mon trajet, de me poser cette question. Si je décide, moi, de donner pour la science, puisque j'ai le droit de donner mes organes, j'ai le droit de donner un rein, j'ai le droit de donner plein de choses, j'ai le droit de donner mes organes quand je serai morte, j'ai même le droit d'en donner en étant vivante, je ne vois pas en vertu de quoi je ne pourrais pas donner mes ovocytes, qui ne serviront à rien, qui ne peuvent plus servir à rien, qu'en face de moi, il y a un mec qui veut bien donner du sperme, qu'on en fasse un embryon sur lequel on fera de la recherche. En vertu de quoi? En vertu de quel fantasme? En vertu de quelle loi? À partir du moment où je suis un adulte responsable de mes actes et je fournirai à la science un ovocyte, je ne vois pas ce qui peut empêcher la recherche sur l'embryon. Eh bien, aujourd'hui, la recherche sur l'embryon est encore interdite. Et pourquoi ma conscience à moi ne m'autoriserait pas à fournir à cette science les moyens de travailler. C'est en toute conscience. Mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Donc voilà, la question se pose.
Hein. Oui, tu as bien fait de distinguer la recherche pure.
La recherche.
La recherche vraiment fondamentale sur les embryons. Et puis tout ce qui est aide à la procréation, etc., qui sont des techniques répondant à une demande sociale.
Voilà. Hein, à un projet parental. C'est différent. C'est très différent.
Dans les techniques répondant à une demande sociale. Et là, il y a un risque malgré tout de commercialisation, hein, parce que la demande entraîne.
De toute façon, on vend des reins, hein. On vend du sang dans les pays étrangers.
Et on est le pays qui, actuellement, a la réglementation bioéthique la plus stricte, la plus précise. Tous les pays voisins, c'est beaucoup plus flou. Hein. Bon, donc, si on accepte que le thème du projet parental aboutisse à, finalement, des embryons qui doivent aller jusqu'au bout, puis d'autres qui sont rien, parce qu'il n'y a pas
de projet parental,
on simplifie la question. Ça veut dire que les seuls la société française par une loi reconnaît une valeur, c'est ceux qui sont soutenus par un projet parental. Alors après, on met des conditions plus ou moins strictes. Hein. Un projet parental, est-ce que c'est un parent tout seul ou un parent à l'autre?
Voilà, c'est le problème.
Mais là, c'est un débat social, c'est plus un débat...
C'est défini par les lois éthiques.
Ça n'a plus rien à voir avec les sciences. Hein. Donc il faut bien distinguer tout ce qui est question sur l'aide à la procréation, qui sont des questions sociétales, qui renvoient des modèles familiaux, et on peut en débattre politiquement. Et puis tout ce qui est, comme vous le disiez, la recherche pure, qui n'a rien à voir, hein, et notamment le problème des embryons, qu'est-ce qu'on fait avec les embryons, sont libérés, etc.
C'est la question que se pose Axel Kahn, que se pose Pierre Jouannet, que se pose Israël Nisan. Pourquoi ne pas utiliser ces embryons surnuméraires avec l'accord des parents, toujours, bien entendu, hein, on est bien toujours d'accord, avec l'accord des parents, dans la mesure où les parents sont d'accord. Pourquoi c'est un projet humaniste, il faut être clair, c'est quand même quelque chose qui pourrait, imaginons, le jour où on va pouvoir, à partir des cellules souches, traiter un certain nombre de pathologies graves, voire même dramatiques. C'est quand même un projet extraordinaire. Donc, et moi, je me pose la question, et je pense que je peux vous la poser et vous pouvez y réfléchir. Qu'est-ce qui fait qu'à partir du moment où on parle d'embryon, il y a ce fantasme de la naissance, ce fantasme de tout ça, qui fait qu'on a de tels blocages, hein? Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, ces institutions sont autant arc-boutées contre la recherche sur l'embryon, à des fins thérapeutiques, bien entendu, toujours.
Moi, je pense un peu comme toi, à savoir que j'ai fait, depuis 1977, j'ai fait l'enseignement de pédiatrie dans deux instituts de formation en soins infirmiers. J'ai eu, grâce à ça, je dirais, la possibilité d'être de façon très permanente dans les services de pédiatrie. Quand on voit le nombre d'enfants atteints de pathologies avec des syndromes très lourds, des syndromes qui sont liés simplement à ce qu'on appelle l'accident génétique, c'est-à-dire qu'à l'origine, le père et la mère ont des cellules normales, mais au moment de la conception, un accident se produit. Et cet accident fait que l'enfant est atteint de pathologies multiples. On appelle ça des syndromes polymalformatifs. Et puis tranquillement, on se voit de la face devant ça. Mais la recherche sur l'embryon permettrait peut-être de découvrir
de comprendre
pourquoi il y a ce type d'accident au moment de la fécondation, sachant qu'il y avait à l'origine un ovule, un spermatozoïde tout à fait intact, normaux, avec des choses sans aucune anomalie. Et là, boum, on ne sait pas à quel moment ça se produit, à quel moment de la division, à quel moment de la multiplication, on n'en a aucune idée. Si on pouvait aller regarder ça, je dirais que ça permettrait peut-être dans l'avenir justement d'éviter les avortements thérapeutiques. Parce qu'à partir du moment où un jour on comprendra ce qui s'est passé dans l'accident génétique, on aura peut-être la solution qui permettra de faire en sorte que l'enfant, finalement, soit l'enfant du projet, puisque c'est ce que
dit
Axel Kahn, les parents qui à l'origine avaient bien un projet, bah, ça devient le véritable enfant du projet et non pas cet enfant qu'ils vont prendre en charge, que certains vont nier au moment de la naissance, que certains vont abandonner au moment de la naissance, que d'autres vont, je dirais, élever comme ils le peuvent avec des drames épouvantables, des familles qui se séparent, des parents qui laissent tout tomber, qui laissent l'enfant dans un centre parce que... Et ils le laissent. Et ils sont en plus l'objet de l'opprobre de la population qui, vous avez vu, ces parents qui ont osé abandonner leur enfant poli mal formé. Donc, toutes ces choses-là pourraient peut-être, effectivement, sur le plan social et sur le plan pourquoi pas, intellectuel aussi, être réfléchi.
Tout à fait. C'est vrai qu'en dehors des considérations eugénistes, il est évident qu'il vaut mieux quand même un diagnostic préimplantatoire bien fait avec une élimination de tous les risques, plutôt qu'une grossesse, plutôt qu'une interruption médicale de grossesse à 3, 4 ou voire plus loin. Je pense que c'est nettement moins traumatisant pour la mère que, surtout quand elle en a déjà bavé pour arriver à se retrouver enceinte, etc., parce qu'elle a, elle a subi un certain nombre de fécondations in vitro, il est bien évident que le diagnostic préimplantatoire, là, prend toute sa dimension humaine, à mon sens.
Josette ?
Moi, je voulais savoir, la loi Léonetti, qui est somme toute assez limitée, est-ce que vous ne croyez pas que c'est un premier pas vers l'euthanasie ?
Alors, j'espère que c'est un premier pas vers l'euthanasie. Par contre, ça reste quand même une loi qui est d'abord une loi barbare. Parce que la loi du laisser mourir, très franchement, laisser mourir quelqu'un, quand on voit par exemple des gens très jeunes qui sont en bonne santé, enfin en bonne santé au départ, bon, qui meurent comme Vincent Humbert par exemple, hein, bon, qui se retrouvent donc débranchés, déshydratés, dénutris pendant une semaine, deux semaines, voire plus, je trouve que c'est quand même le comble de la barbarie et le comble de l'hypocrisie de ne pas oser faire le geste qui va leur permettre de mourir dans de bonnes conditions. Donc c'est vrai que cette loi Leonetti est une avancée, mais quelque part, c'est ce que je disais, c'est une loi quand même qui refuse d'aborder le vrai débat, c'est une loi qui refuse d'aborder le vrai débat de la liberté de conscience et du droit à disposer de son corps. On ne veut pas admettre dans cette société, on ne veut pas encore admettre en France que des individus soit suffisamment mûr, soit suffisamment, je dirais, réfléchi pour savoir ce qu'ils veulent. Il y a des gens, effectivement, ça représente une petite proportion, ça représente très peu, mais je reste quand même convaincue, et j'espère pouvoir être capable de le faire le moment venu, je pense qu'il y a des gens qui sont déterminés, qui savent très bien, qui n'ont plus envie de vivre, qui savent très bien que ce qu'ils vivent quand ils sont dans les hôpitaux, quand ils sont dans les services de soins palliatifs, ça n'est plus la vie. C'est une vie biologique, ça n'est plus une vie symbolique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et vraiment, cette vision de Leonetti, c'est gommer cette notion de vie symbolique. Et c'est refuser d'entendre le discours de ceux qui, pour qui la vie symbolique passe avant la vie biologique. Et je pense que vraiment, c'est là le nœud du problème. Et le nœud du problème, c'est le refus, c'est le non. On impose à personne l'euthanasie. C'est comme l'IVG. L'IVG est un droit, ça n'est pas une obligation. L'euthanasie devrait être un droit, ça n'est une obligation pour personne. Hein, à partir du moment où on est encadré, où les choses sont bien encadrées, ici vous êtes bien placé, puisque vous avez la Belgique à côté, je pense qu'il y a des pays qui ont légalisé l'euthanasie, qui ont fait les choses de manière extrêmement claire, extrêmement précise, en protégeant ceux qui veulent, qui revendiquent une aide active à mourir, mais en protégeant aussi ceux qui ne la revendiquent pas, hein, parce que je crois que la loi encadre les choses, la loi protège l'individu, soit contre le, protège l'individu. Ce qui se passe avec Leonetti, c'est beaucoup plus une déréglementation qu'une légalisation. On déréglemente, on laisse, ma foi, on laisse mourir, on laisse mourir. Et pire que tout, depuis la loi Leonetti, les médecins qui, eux, pratiquaient des euthanasies. Moi, je suis pas concernée, je suis ophtalmo, très franchement, il m'arrive pas. Bon, je suis libérale en plus, hein, j'ai pas accès à ce. Hélas, en fait, quelque part, je le regrette un petit peu parce que mon discours serait sûrement beaucoup plus profond encore. Mais il interdit maintenant aux médecins de pratiquer une euthanasie. C'est-à-dire que sans laisser mourir, on débranche. Mais on n'a pas le droit d'injecter un produit qui va permettre à la personne de mourir plus vite. Donc quelque part, il a mis les médecins dans une situation qui est beaucoup plus inconfortable qu'elle était avant, où effectivement les choses se pratiquaient, on le disait, ça se faisait, on ne le disait pas, on le savait très bien. Bon, par contre, je suis contre aussi cette euthanasie, toutes ces euthanasies clandestines qui se pratiquent, qui sont pratiquées à l'insu du patient. Donc moi, je suis pour une légalisation précise, clair, net, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas aux Pays-Bas, en Belgique ou ici. Mais c'est bien évident que la loi Leonetti, c'est la loi de l'hypocrisie maximum. Et c'est la loi, pour moi, c'est une loi barbare. Dans certains cas, c'est la barbarie poussée à son.
Il y a la loi et la pratique.
Bien sûr, il y a la loi et la pratique. Évidemment, heureusement qu'il y a la loi et la pratique. Voilà. Heureusement.
Il y a un certain recul.
Mais c'est vrai qu'il vaut mieux quelque chose de lumineux et clair que la clandestinité.
Voilà, tout à fait.
Madame.
Pardon. Moi, je voudrais poser une question. C'est au niveau de la nomination du comité consultatif national d'éthique.
Le président de la République.
Oui, non, mais ça, je sais. Le problème, non, c'est, ça serait plus une question même, je dirais, de droit international. Je vois pas maintenant, par rapport à tout ce qui nous entoure actuellement, pourquoi c'est uniquement la France qui nomme, dans son pays, un comité consultatif national d'éthique. Pour moi, ça devrait relever du droit international public et même des Nations Unies et une législation qui serait applicable pour l'ensemble des pays.
Ah là, c'est complexe.
Non, mais... Le droit, pourquoi c'est dangereux?
Traité de Maastricht.
Il y a eu autant de groupes de pression au niveau des Nations Unies qu'au niveau de la France.
Traité de Maastricht. Ça s'impose.
Oui.
Donc on ferme les fonctionnaires, les hôpitaux.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'actuellement, vous parlez de mercantilisme. Voilà. Moi, je vais vous parler autre chose, c'est de marchandisation de l'individu. Or, actuellement, avec les problèmes sociétaux que nous rencontrons, qui vous dit qu'un jour, on ne va pas faire en sorte de...
Faire payer, bien sûr.
Non, de faire des manipulations génétiques dont on n'aurait pas conscience.
Ça, on est. Alors, je suis quelque part entièrement d'accord avec vous sur le clonage humain.
Oui.
Est-ce que, effectivement, des fous furieux ne vont pas nous fabriquer des armées?
C'est le droit international public.
Oui, mais vous pensez que le droit international va.
Serait mieux que le droit français, je pense pas.
Non, mais l'OMC, c'est un international.
Oui, je sais. L'OMS aussi.
Et s'ils ne sont pas à l'ONU, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé l'utilité.
L'OMS aussi?
Oui.
Bon. Il y avait une autre remarque, c'était la question de biopouvoir qui a été employée. Mais je me méfie un peu de ce terme. Quand on voit l'usage de Foucault, lorsque Michel Foucault identifie savoir et pouvoir pour discréditer la science, j'ai peur que l'utilisation du terme biopouvoir tente de discréditer les sciences biologiques. Donc,
non, c'est le biopouvoir dans le sens politique. C'est pas le biopouvoir dans le sens des sciences. C'est vraiment dans le sens des politiques.
C'est un terme très ambigu.
Voilà. C'est le pouvoir sur le vivant quelque part. Hein. Donc voilà. Ce que je te disais d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, c'est que jusque là le pouvoir avait droit de vie et de mort. Aujourd'hui, il a de plus en plus le pouvoir de faire vivre. De faire vivre par tous les moyens.
Ouais, mais le c'est là qu'intervient le terme lui-même.
C'est le pouvoir des médecins.
Non, alors le pouvoir des médecins, c'est autre chose. Le pouvoir des médecins, c'est un autre problème.
C'est un terme très très dangereux, c'est le biopouvoir.
Voilà. Mais c'est le pouvoir politique. Hein. On parle bien d'un pouvoir politique.
C'est un terme qui est très mauvais, parce que c'est vraiment une connotation obscurantiste sur laquelle la biologie peut être dangereuse.
Absolument.
Donc ça surfe sur une certaine population politique. Je trouve ça très dangereux.
C'est pas moi qui l'ai inventé, tu vois, c'est d'autres. J'ai repris, par exemple, santé publique du biopouvoir à la démocratie. Effectivement, on parle bien de pouvoir politique. D'accord. Et donc ils insistent bien sur une espèce de forme de totalitarisme où effectivement ça n'est plus l'humain qui prime, mais c'est le génome, c'est tout ce qu'on veut. L'espèce humaine.
Par rapport à mon exemple, je pense par exemple au Prozac. On a dit il faut prendre du Prozac, c'était la pilule rose vraiment antidépresseur. Alors que dans le Prozac est très dangereux. Et en plus, tout antidépresseur est dangereux puisque ça fiche en l'air les synapses du cerveau. Personne ne le dit. Mais ça change aussi un individu. Vous avez des individus qui sont sous antidépresseurs toute leur vie et qu'on retrouve comme des lavettes. Alors que ce sont des gens qu'on aurait pu sauver différemment. Parce que ils ont eu différents accidents dans la vie. Mais. Moi, je trouve que maintenant, justement, c'est ça le biopouvoir. Le biopouvoir, c'est réussir à formater un individu tel qu'on le veut, adapté à la société contemporaine.
Tout à fait.
Et ça, c'est très, très dangereux. Et on est en train de le faire, qu'on le veuille ou non. Parce que les gens, moi, je trouve qu'au niveau de la culture et tout ça, les gens sont de plus en plus anesthésiés par la télévision, par plein de choses. On apprend, même quand on est devant son ordinateur, on n'apprend plus à réfléchir, à raisonner, à se poser des questions, à avoir une morale, à avoir une éthique. On ne sait plus tout ça. Donc, si on va chercher des bouts, même moi, je le fais tout le monde, quand on a un sujet à exposer ou à traiter, on va aller chercher des bouts de texte, on appelle ce qu'on fait, c'est de l'analyse systémique, holistique aussi. Et dans le management, vous retrouvez ça, et moi je dis que dans la prochaine entreprise, on aura du biopouvoir, mais à fond la caisse, hein. À fond la caisse. L'entreprise du 21e siècle, ça va être ça, vis-à-vis des individus. Enfin, je ne sais pas si vous ne comprenez pas.
Vous ne le recirez pas, madame.
Comment ?
Ça nous angoisse. Heureusement qu'il y a un coup pour le dérider après. Parce que...
Je
ne
veux pas être protestant, je ne veux pas être une anarchiste. En plus, le rapport du Seigneur, je ne l'ai pas lu.
Mais le droit international est toujours au service d'une idéologie.
Tout à fait. Tout à fait. C'est le danger. C'est qu'il soit au service de l'idéologie.
Il y a des dangers à tous les siècles. Au 19e siècle, les gamins, on les mettait à l'âge de 50 ans. Il mourrait très vite. Ouais. C'était de l'eugénisme aussi. Oui, il y avait les plus solides qui vivaient.
Mine de rien.
Mine de rien.
C'est ce qui fait la forme de l'île.
Et puis dans les campagnes, il y avait les gosses chez les fermiers quand ils n'étaient pas tout les fait. Chocs, et ben, ils mouraient dans un coin, puis on les retrouvait 15 jours après, et on les emmenait avec le curé du village qui venait faire quelque chose de très important.
Évidemment.
Mais au bout du compte, le gosse.
Pour cette petite âme perdue.
Oui, la petite âme, oui. Mais c'était aussi une façon de faire. C'était l'eugénisme sous une autre forme.
Oui, mais ça restait local. Aujourd'hui, le problème, c'est la montée. Oui,
mais non, c'était national. Là, non, mais
d'accord.
Mais d'accord.
Mais d'accord. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'il peut y avoir derrière le vieux pouvoir, c'est le fait que c'est la mondialisation et qu'on va toucher
des millions d'individus. Il y avait la même chose enfin dans le texte. Il y avait des
choses. Monsieur qui va intervenir. Il y a une question. Je pense qu'on va arrêter maintenant. Oui. Il y a une question. La dernière, peut-être.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y a des comités locaux d'éthique dans chaque hôpital maintenant.
Oui, tout à fait.
C'était une demande des médecins.
C'est vrai.
J'ai découvert à Jeanne de Plan, parce que je ne sais pas. C'est pas pour eux, mais bon, pour d'autres personnes. Non, je ne sais pas. Mais ces médecins, c'était notamment des gynécos, pas seulement des chirurgiens, etc., trouvaient très utile pour eux. D'avoir des psys, des sociologues, des philosophes,
qui
font 4-5, discuter, et discuter avec les parents. J'ai découvert ça, c'est une pratique qui se fait, alors on peut appeler ça, je ne sais pas comment, de l'accompagnement des parents, ou de la recherche, mais les médecins disaient qu'en fait, ils se trouvaient démunis sur le plan de la
réflexion. On est d'accord.
Pour savoir, je ne parle pas de la recherche, je parle bien
de
l'assistance médicale à la procréation. C'est savoir jusqu'où on peut aller à la procréation, etc. Par exemple, des gosses qui avaient des parents qui avaient des gosses, je dis n'importe quoi, qui avaient déjà des gosses qui en voulaient encore un, etc. etc. Bon. Donc, un certain acharnement. Donc, il y a une demande sociale pour avoir des gosses comme ci, comme ça, autant ou pas autant, et à tel moment, etc. Il y a une demande sociale qui est tous azimuts, et les médecins actuellement, enfin les. Ceux qui s'occupent de l'assistance médicale à la procréation sont assez démunis pour savoir jusqu'où il faut répondre.
Oui, tout à fait.
Tel et tel individu. Et ils trouvaient utile d'avoir justement un bon médecin, donc des psys, des philosophes, des sociologues, pour aider à avoir clair. Mais de fait, c'est eux. In fine, c'est le médecin qui décide.
Oui.
Qui décide de faire l'assistance médicale pour. N'importe quoi, la mère célibataire ou le père célibataire qui en veut 5. Ou pas le faire. Bon, ça, c'est une pratique qui est nouvelle et qui n'a pas encore été vraiment. Et apparemment, les lois ne les aiment pas beaucoup. C'est les médecins qui décident, in fine. Il y a des bornes fixées par la loi.
Alors là on est bien d'accord. Là, est-ce que c'est un comité d'éthique ou c'est un collège? Parce que je crois que effectivement, les médecins, il faut bien le dire. Moi, j'ai fait des études de médecine il y a déjà quand même quelques années. Bon, je sais qu'aujourd'hui, il y a un petit peu plus d'études des sciences humaines, mais ça représente quand même pas grand-chose. Moi, j'ai pas eu une seule heure de sciences, de philo, de psycho dans mes études médicales. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris. Et effectivement, depuis que je suis à la libre pensée et que je me suis plongée sur un certain nombre de sujets, mais il est bien évident que le médecin, tout médecin, s'il ne travaille pas un petit peu en dehors ses sciences humaines, n'a aucune formation en sciences humaines, c'est clair. Donc, qu'on soit aidé ou qu'on demande la collaboration de spécialistes en sciences humaines, je suis tout à fait d'accord. Ce qui n'est pas le cas des comités d'éthique quand même. Hein, dans le comité national d'éthique. Alors, de mémoire, je vais essayer de vous réexpliquer, mais il y a des scientifiques, c'est vrai, mais il y a aussi des administratifs. qui n'ont rien de responsable, de spécialiste en sciences humaines. Les administratifs doivent quasiment représenter, ça doit être 5. Ils sont quasiment à la moitié dans la représentation dans les comités d'éthique.
Administratif ou voilà. Gestionnaire?
C'est administratif et gestionnaire.
Ah, plutôt...
Administratif et gestionnaire. Donc effectivement, mais moi je ne suis pas contre, effectivement, le travail collégial avec un spécialiste des sciences humaines, donc en particulier dans les deux domaines qui touchent ces deux domaines de prédilection des comités, c'est-à-dire la vie et la mort, enfin le début de la vie, la fin de vie. Hein. Il est bien évident que ça aide beaucoup. Et dans les hôpitaux, on voit quand même des psychologues maintenant qui sont là dans les services de soins palliatifs et tout ça, et tant mieux. Tant mieux qu'on puisse, parce que les médecins n'ont pas toutes les réponses et ne peuvent pas encadrer tous les moments de ces moments-là.
Pardon, pour les administratifs. Alors, les administratifs sont peut-être des énarques.
Non, c'est pas du tout. Pas du tout des énarques. Ah, là, malheureusement, j'ai pas d'autres réponses. Ma mémoire me...
C'est le comité d'éthique qui écrit des textes de loi ou...
Non, le comité d'éthique, normalement, il donne un avis. Il est consultatif.
Le législateur.
Après, c'est le législateur, mais effectivement, voilà.
Oui, bien sûr. Des grands papiers habituels.
Ils sont spécialisés,
dans l'écriture des lois.
En général, cette commission, ce comité, sont
les députés qui écrivent, bien sûr. On propose les lois, bien sûr.
Ces comités sont construits en fonction de ce qu'on pense pouvoir sortir. C'est comme ça que ça se passe. Voilà.
Mais il ne faut surtout pas que les lois soient faites par des experts, à mon avis.
Alors, ils changent tout. C'est la mode maintenant.
Il peut faire des modifications sur les textes de loi avant qu'ils soient.
Non, le comité d'éthique donne un avis. Ils donnent leur avis.
Ils se prononcent.
C'est-à-dire qu'ils donnent un rapport qui va être après discuté par la chambre concernée.
Mais s'ils sont consultés et qu'on ne modifie rien, ça sert à rien.
Mais par contre, ils ont quand
même. Ça éclaire la représentation nationale. Ça les éclaire. Des lumières. C'est quelle fête, la Pentecôte?
Oh ben voilà, on comprend mieux cette manière, ça marche pas.
L'épiphanie.
Voilà.
Bien. D'autres questions? Vous souhaitez prolonger plutôt devant le bar?
Devant le bar, oui.
Un grand merci à tous. Daniel. Le monde a fait plus haut.
Discuter autour d'un verre.
Voilà.
Et donc les brochures sont sur la table.